en Europe. Le pionnier du mouvement de Pentecôte en Europe est le pasteur norvégien d'origine britannique Tibi Barrat, lequel est né le 26 juillet 1862 dans le sud de l'Angleterre, où son grand-père était déjà prédicateur méthodiste. Ses parents venaient de se convertir et son père, notamment, travaillait dans les mines comme prospecteur. Et c'est 5 ans après sa naissance que son père a été envoyé en Norvège pour diriger justement l'installation d'une mine là-bas. Dès son plus jeune âge, le jeune garçon a su qu'il serait prédicateur. Et c'était quelque chose qui s'était ancré en lui d'une manière très rapide. Les Barrat étaient donc dans la mouvance méthodiste et ils étaient dans ce grand mouvement que nous avons évoqué la dernière fois qui, à la fin du 19e siècle, recherchait cette expérience de sanctification. 4 ans après son arrivée en Norvège, le père est mort. Et à l'occasion de ce moment difficile, le jeune Thomas a connu une première visitation du Saint-Esprit. Et c'est alors qu'il a été envoyé, donc en Angleterre par sa famille dans un collège méthodiste pour y étudier. Et dans ce collège méthodiste, il y avait, comme souvent d'ailleurs dans ce type d'institution, des moments où le réveil soufflait. Et c'est à l'occasion d'un de ces réveils, qui a eu lieu le 22 novembre 1874, que le jeune Thomas s'est converti à l'âge de 12 ans. 4 ans plus tard, ses études terminées en Angleterre, il a rejoint la Norvège, et là, il s'est engagé dans l'œuvre de Dieu, dans ce qu'il pensait pouvoir faire à cette époque-là. Il a commencé par prendre part aux écoles du dimanche. L'école du dimanche, en milieu anglo-saxon, n'a rien à voir avec ce que nous appelons l'école du dimanche. L'école du dimanche, chez nous, c'est quelque chose qui est réservé aux enfants ou aux jeunes adolescents au mieux. Dans les pays anglo-saxons, l'école du dimanche s'adresse à tous les membres de l'Église, depuis les enfants jusqu'aux adultes. C'est-à-dire qu'avant le culte, il y a un temps qui est mis à part, justement, où les différents membres de l'Église se rassemblent sous la direction d'un moniteur, si on veut, pour étudier un certain passage de la Bible. Donc, ce sont des classes bibliques à l'intention des adultes. Et donc, Tibi Barrat est devenu enseignant, donc moniteur, vraisemblablement pour des jeunes, parce qu'il était encore jeune à cette époque-là, il n'était pas question, bien sûr, qu'il ait des gens plus âgés. Et puis, non seulement il a milité donc dans les rangs de l'école du dimanche, par exemple, Moody aussi avait été actif avant de devenir prédicateur dans ce type d'activité, mais il a aussi milité contre l'alcoolisme, qui faisait de nombreux ravages parmi les mineurs, notamment dans ces régions-là. Il a vu alors des mineurs alcooliques se convertir, et il a compris qu'ils avaient besoin d'une nourriture spirituelle, beaucoup d'entre eux. Bon, à cette époque-là, il n'était pas encore capable de prêcher lui-même. Alors, il s'est procuré des recueils de sermons de Moody, justement. Et il lisait les sermons de Moody aux mineurs. Et c'est ainsi qu'il a commencé son ministère. Petit à petit, il s'est affranchi de ce qui était écrit dans les recueils qu'il avait. Il s'est mis lui-même à commenter, en quelque sorte, les prédications de Moody. Et petit à petit, il s'est mis à prêcher lui-même. De telle sorte qu'en 1884, il a été reconnu comme prédicateur dans l'Église méthodiste, c'est-à-dire prédicateur laïque, si vous voulez. Il n'était pas, en quelque sorte, pasteur. Le 10 novembre 1887, il s'est marié à Bergen avec Laura Jacobsen. Et c'est en août 1889 qu'il est devenu pasteur de la 3e Église méthodiste d'Oslo. C'était l'époque où les premières effluves du réveil du pays de Galles commençaient à se faire sentir. Timmy Barrett était lui-même originaire du sud de l'Angleterre, donc pas très loin du Pays de Galles, finalement. Et il a entendu parler de ce qui se passait là-bas. Il s'est rendu dans le Pays de Galles et il a été fort impressionné par ce qu'il a pu y voir. Il aspirait à de profondes expériences avec le Saint-Esprit, mais c'était l'époque où la Scandinavie était marquée par une crise économique importante et l'église dont il était le pasteur à Oslo avait des locaux qui tombaient en ruine et qu'elle n'avait pas les moyens de les réparer. En fait, il aurait fallu les reconstruire de fond en comble. Et c'était un gros problème pour cette église d'Oslo. Et après avoir discuté avec les anciens de l'église, Timmy Barrett a décidé de se rendre aux États-Unis. Il a rassemblé une somme qui lui a été offerte par sa communauté pour ce faire, dans le but d'aller faire une tournée dans les églises américaines, comme c'était un petit peu la coutume à cette époque-là, et de ramasser des fonds pour reconstruire justement l'église d'Oslo. Et c'est ainsi qu'il s'est embarqué pour les États-Unis, où il est resté un an et demi, parcourant le pays de fond en comble, dilapidant, se faisant les maigres ressources qui avaient été mises à sa disposition par son église. Et au bout d'un an et demi de ce travail, sur le plan de la somme d'argent qu'il était parti ramener, c'était l'échec total. Il n'avait pas ramassé un centime, et encore, non seulement il n'avait pas ramassé un centime, mais il avait lui-même des difficultés financières. Alors, il a pris acte de son échec, et il lui restait juste assez d'argent pour acheter un billet pour le retour. Et donc, il s'est décidé, il a dit, « Bon, demain, je vais m'acheter mon billet de retour, et puis je retourne. » Et c'est alors qu'il a rencontré deux pasteurs américains, qui lui ont dit qu'il devrait rester encore un peu, notamment parce qu'il y avait justement sur la côte ouest, à Los Angeles, un réveil extraordinaire qui battait son plein. Et donc, Timmy Barrett s'est dit qu'au point où il en était, il n'avait plus grand-chose à perdre, et qu'effectivement, il pouvait se permettre d'aller voir là-bas ce qui se passait. Timmy Barrett s'est donc rendu à Los Angeles, à la rue Azusa, bien entendu, et le dimanche 30 septembre 1906, il a été amené à réaliser, bibliquement, Bible en main, que le baptême dans le Saint-Esprit était une réalité profondément biblique. Il s'est mis donc à rechercher de toutes ses forces le baptême dans le Saint-Esprit. Il a demandé qu'on prie pour lui là-bas, mais rien ne s'est produit. Et donc, il a décidé de rentrer. Et c'est deux mois plus tard, un mois et demi plus tard, le 19 novembre, que tant seul dans sa chambre, il a été rempli du Saint-Esprit. Par conséquent, il est arrivé à la conclusion que, somme toute, son voyage n'avait pas été vain, que certes, il n'avait pas obtenu ce qu'il était venu chercher, mais que le Seigneur avait d'autres plans pour lui, et que le Seigneur lui avait permis de trouver quelque chose, un trésor, qui était plus important que toutes les richesses d'or et d'argent auxquelles il aurait pu rêver, et qu'il a senti que le Saint-Esprit le poussait à introduire ce message de la Pentecôte qu'il venait de découvrir en Europe. Et c'est ainsi qu'il est rentré en Norvège, conscient d'être investi par le Seigneur d'une mission pour cette nouvelle dimension qu'il avait découverte là-bas. Quand Timmy Barrett est arrivé et est rentré donc des États-Unis, il était âgé de 44 ans, et il a donc commencé à expliquer dans sa communauté ce qui s'était passé. Et c'est ainsi que est née la première église charismatique en Europe, l'église la troisième église méthodiste d'Oslo, dont le pasteur Timmy Barrett était le responsable, le berger. Très vite, le réveil s'est répandu comme une traînée de poudre dans la ville d'Oslo, et le local tombant en ruine est devenu trop petit, il a fallu trouver d'autres endroits pour faire des réunions, mais là, le Seigneur a pourvu aussi au point de vue financier, si bien que les problèmes financiers de l'œuvre ont été résolus par ce moyen-là. Et non seulement Oslo s'est mis lui-même, a été complètement bouleversé par ce qui se passait là, mais également de toute la Norvège, on a entendu, dans toute la Norvège, on a entendu ce qui se passait. On venait de toute la Norvège pour assister au service qui se tenait à Oslo plusieurs fois par semaine, Et Tibi Barats a commencé à être invité un peu partout en Norvège. De la Norvège, le pasteur Barats est passé dans les autres pays scandinaves, notamment à Stockholm, où se trouvait un jeune pasteur dont nous aurons l'occasion de parler dans un instant, un jeune pasteur baptiste qui se nommait Lewis Petrus, et qui était pasteur à Stockholm, qui a entendu parler de ce qui se passait à Oslo et qui a invité Tibi Barats à venir faire des réunions dans son église baptiste de Stockholm. Et c'est ainsi que l'église du pasteur Lewis Petrus lui-même et son église, sont alors devenus charismatiques et sont devenus, Oslo et Stockholm sont devenus les deux grands pôles de la Pentecôte européenne au début du siècle. De la Suède, le réveil s'est répandu au Danemark, où le pasteur Barats a été invité par le pasteur Christensen, qui était pasteur au Danemark. Et là, alors, sa réputation l'avait déjà précédé. Et il y avait parmi les églises du Danemark, les églises de Copenhague en particulier, une très très grande opposition. Lorsque Tibi Barats est arrivé dans le grand théâtre de Copenhague, qui avait été loué par le pasteur Christensen, il avait en face de lui une foule houleuse et hostile. Tibi Barats était non seulement un grand homme de Dieu, bien sûr, mais c'était aussi un musicien de talent, très bon violoniste. Il avait été élève du célèbre compositeur norvégien Edvard Grieg, auquel il avait d'ailleurs rendu témoignage à plusieurs reprises. Et non seulement il était un violoniste extrêmement talentueux, mais il savait aussi jouer du piano. Et donc, lorsqu'il est arrivé dans cette salle hostile à Copenhague, il a prié, il dit « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Il a compris que s'il ouvrait la bouche de cette manière-là, il n'allait pas être écouté. Alors il y avait un piano qui était là, il s'est dirigé vers le piano, et il a commencé à jouer, et là, il a chanté en quelque sorte sous l'inspiration du Saint-Esprit. Un silence de mort s'est fait dans la salle, l'onction de l'Esprit est descendue sur toute la salle, et quand il a terminé de chanter, il s'est levé, il a commencé à prêcher l'Évangile, et ça a été un moment extrêmement important, c'est pas la foule a été profondément bouleversée. Nombreux sont ceux qui se sont approchés à l'appel du prédicateur. D'autres ont été guéris par l'imposition des mains, etc. Et toute l'opposition qu'il y avait dans cette salle a disparu sous la puissance de Dieu. Et parmi les assistants qui étaient dans ce théâtre ce jour-là, il y avait une jeune fille qui se nommait Anna Larsen et qui était une grande actrice de cinéma ou de théâtre, je ne sais plus exactement, chanteuse également. De Copenhague. C'était la star, si l'on peut dire, si on employait un mot moderne, c'était la star de l'époque à Copenhague. Et Anna Larsen venait de signer un fabuleux contrat avec un producteur qui, c'était pour elle la fortune, ça. Et elle était venue par curiosité, comme elle avait l'habitude de chanter et de se produire dans ce théâtre-là. Bon, elle était venue voir ce prédicateur curieux qui faisait, dont tout le monde parlait à Copenhague, d'une manière souvent négative d'ailleurs. Et au moment de l'appel du prédicateur, elle a été une des premières à s'avancer, se mettre à genoux pour recevoir le Seigneur dans sa vie, dans son cœur. Et le lendemain, donc, elle a annoncé publiquement à la radio de Copenhague qu'elle s'était convertie, qu'elle abandonnait sa carrière de chanteuse, d'actrice, de tout ce qu'on voudra, et qu'elle décidait de consacrer sa vie à Jésus-Christ. Et finalement, cette conversion d'Anna Larsen a presque fait plus pour la diffusion de l'Évangile que finalement la réunion qui a eu lieu la veille dans le Grand Théâtre de Copenhague. Et Anna Larsen est allée voir son producteur pour casser son contrat. Le producteur était atterré parce que c'était une perte pour lui aussi, bien entendu. Il a essayé de la persuader en disant « Enfin, après tout, vous pouvez fort bien concilier votre vie chrétienne et puis votre vie professionnelle. Après tout, pourquoi pas? Il y en a d'autres aussi qui croient en Dieu, etc. » Mais Anna Larsen avait compris que l'Évangile véritable était incompatible avec le théâtre et le cinéma, la chanson de variété, etc. Enfin, tout ce dont aujourd'hui ce qu'aujourd'hui on considère comme étant justement parfaitement compatible avec ces choses. Et donc elle a insisté, elle a rompu le contrat. Le producteur était furieux et il l'a fait enfermer comme folle. Et donc Anna Larsen a été internée pendant quelques temps, je ne sais plus exactement, quelques jours, quelques semaines, dans un hôpital psychiatrique. Elle est passée entre les mains de différents psychiatres, médecins, etc., auxquels elle a rendu témoignage d'ailleurs avec vigueur, sans se démonter. Et c'est alors que les médecins ont été obligés de la relâcher en disant qu'elle était, de toute l'équipe médicale qui était là-bas, certainement celle qui était la plus équilibrée. Alors, Anna Larsen s'est rendue ensuite en Angleterre, toujours pour servir le Seigneur, comme secrétaire de différents pasteurs qui étaient là-bas. Et elle a fini par épouser le secrétaire général des Assemblées de Dieu de Louvain Pentecôte, qui se trouvait donc là-bas, qui est devenu le secrétaire général du mouvement de Pentecôte au Danemark. Et lui est devenu évangéliste itinérant. Ils avaient acheté une roulotte. À cette époque-là, il n'y avait pas de voiture, c'était tiré par des chevaux. Une roulotte qu'ils avaient aménagée. Et donc, ils allaient de ville en ville, de village en village au Danemark. Ils avaient aménagé une espèce de petite, à l'arrière de la caravane, une espèce de petite, comment pourrait-on dire, une espèce de petite chaire, quoi. Hein, et là, donc, ils disposaient des bancs, une petite tente, etc. Les gens venaient. Anna Larsen chantait. On venait, rien que son nom, n'est-ce pas, était connu. Et tout le monde savait ce qui lui était arrivé. On venait rien que pour entendre raconter ce qui lui était arrivé. Elle chantait, donnait son témoignage et son mari prêchait. C'est ainsi que le mouvement de Pentecôte s'est répandu donc au Danemark au début de ce siècle-là. De là, donc, Tibi Barat a été invité en Angleterre par le pasteur Bodhi, qui était un ancien pasteur anglican, qui était devenu évangélique, et pendant que deux des aides de Barat répandaient le message de Pentecôte en Suisse. C'est là que Tibi Barat avait compris que là, il avait une vision particulière pour l'Europe. À la suite de ce qui s'était passé un peu partout en Europe, le synode méthodiste s'est rassemblé pour traiter du cas Barat, parce que Barat n'avait pas que des amis, mais aussi un certain nombre de ses collègues méthodistes classiques n'appréciaient pas beaucoup sa nouvelle orientation. Et c'est alors que Barat, le 11 juillet 1910, a été exclu de l'Église méthodiste. Ça n'a pas arrêté, bien entendu. Il a continué à voyager en Allemagne, en Suisse, puis en Inde. Il s'est rendu en Inde, où là aussi ont eu lieu alors des miracles absolument extraordinaires. Il y avait là, donc, quand il est arrivé à Bombay, à Calcutta, dans une de ces deux villes, il est entré dans une pièce où il y avait environ 20 personnes qui étaient rassemblées. Et il a eu la surprise, en arrivant en Inde, de se rendre compte que le réveil de Pentecôte avait éclaté en Inde aussi, indépendamment de toute intervention autre. Simplement, des chrétiens locaux avaient cherché le Seigneur, et le Seigneur avait répandu son esprit. Et quand il est entré dans cette pièce, où il y avait ces chrétiens indiens qui étaient là, qui priaient, une vingtaine de personnes environ, dont aucune de ces personnes ne connaissait l'anglais, il a eu la surprise d'entendre toutes prier en anglais. Il comprenait exactement ce qu'il était en train de dire, ce qu'elles demandaient, ces personnes. Et notamment, il s'est rendu compte que ces personnes priaient pour la Libye. Et bon, ensuite, il leur a dit, voilà, vous priez pour la Libye. Et ce n'est que quelques temps plus tard qu'ils ont appris aussi que le Seigneur avait entendu cette prière et que l'Esprit du Seigneur travaillait aussi en Libye. Il y avait donc là quelque chose de tout à fait particulier, de tout à fait étonnant. Il s'est donc rendu de là donc au Moyen-Orient, justement en Libye, d'abord en Syrie, puis au Liban, et puis ensuite il s'est rendu compte de l'œuvre de Dieu là-bas. Bon, c'était l'époque où ces pays étaient relativement ouverts. D'abord, il y avait des chrétiens là-bas, il y en a toujours d'ailleurs, mais aussi c'était encore le gouvernement ottoman qui était très très faible, très très lâche. Donc, bon, il n'y avait pas d'opposition systématique comme il y en a aujourd'hui à la prédication de l'Évangile. En 1910, toujours donc après avoir été ainsi expulsé des églises méthodistes, il a fait un pas de la foi et il a loué une salle de 700 places à Oslo. Laquelle salle a été rapidement remplie parce qu'il a dû quitter son église, bien entendu. Et c'est l'année suivante qu'il a rassemblé dans ses locaux la première convention mondiale de Pentecôte, 1911. Bien que baptisé dans le Saint-Esprit et donc ayant pris ses distances vis-à-vis de l'Église méthodiste, Tibi Barat était resté pédobaptiste, c'est-à-dire qu'il baptisait les enfants. Et il pensait être dans le vrai ce faisant. Nous avons vu que très vite, après son retour des États-Unis, dès l'année 1905, Tibi Barat s'était lié d'amitié très vive avec Lewi Petrus de Stockholm. Et cette amitié est restée très forte entre les deux hommes jusqu'à la mort de Tibi Barat, qui était plus âgé que Lewi Petrus. Or, Lewi Petrus était baptiste. Et Lewi Petrus a expliqué à Tibi Barat, il dit, mais le baptême des enfants n'est pas biblique. Et pendant très longtemps, Tibi Barat a résisté, il avait des discussions très fraternelles, mais très, très fortes, sur cette question avec son ami Lewi Petrus, bien sans que cela n'entache d'ailleurs en rien leur amitié, mais bon, il y avait un point de désaccord. Et un jour, Tibi Barat a décidé de régler ce problème devant Dieu. Il dit, Seigneur, toi, finalement, qu'est-ce que tu penses? Et il a donc cherché le Seigneur pendant tout un temps, à part un temps de prière, de recherche, où il a cessé toute autre activité. Et au bout de ce temps de recherche, le Seigneur lui a montré que le baptême biblique était le baptême des croyants. Il a donc écrit dans ce sens à Lewi Petrus et il a demandé à son ami Lewi Petrus de le baptiser, ce qui a été fait donc en 1913. Il a été baptisé dans l'église de Lewi Petrus à Stockholm, alors qu'il était beaucoup plus âgé que Lewi Petrus, qui était encore un jeune homme à cette période-là. Et bien sûr, cette décision d'être baptisé par immersion lui a attiré de nouveaux ennuis avec l'église méthodiste. Il a définitivement coupé avec l'église méthodiste 3 ans plus tard, en 1916. Entre-temps, le réveil de Pentecôte s'étendait donc par des voies différentes en Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Argentine, pays dans lesquels il était promis à un grand avenir. Au Brésil notamment, le réveil s'est allumé comme un véritable feu de brousse. Il y avait dans ces pays d'Amérique du Sud, marqués par un catholicisme très, très autoritaire et très moyenâgeux, peut-on dire, une véritable faim et soif de quelque chose d'autre. Et lorsque le réveil est arrivé, venant d'Amérique du Nord, bien entendu, il a été reçu dans des cœurs qui étaient préparés, des cœurs qui avaient une soif extraordinaire. Et les églises pentecôtistes se sont mises à pousser comme des champignons au travers de ces deux pays et bientôt de toute l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale, l'Amérique latine, disons, d'une manière générale. Mais il y avait aussi, bien sûr, des oppositions. Des oppositions, ça. Des oppositions d'abord en Californie elle-même, contre l'œuvre de réveil de la rue Azusa. Puis ensuite, il y en a eu en Europe, on a vu avec Tibi Barat. Lewi Petrus, nous allons le voir dans un instant, a été amené lui aussi à quitter les églises baptistes pour les mêmes raisons. Et finalement, il y a eu des oppositions aussi, bien sûr, en Amérique du Sud. En Amérique du Sud, où la hiérarchie catholique qui avait partie liée avec le pouvoir, a utilisé le bras séculier pour organiser de véritables persécutions des croyants évangéliques. C'était le cas notamment dans des pays comme la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Chili, qu'est-ce qu'il y a là, l'Uruguay, tous ces pays-là, où des chrétiens ont été persécutés physiquement, mis à mort, etc. Finalement, c'était comme si l'Inquisition n'était pas terminée, n'était pas achevée, enfin, même si officiellement ça l'était, bien entendu. Mais le réveil s'est poursuivi aussi à partir d'Oslo, en Islande, donc l'île qui se trouve au large de... c'est le Groenland qui est propriété du Danemark, mais l'Islande donc, est un pays indépendant, donc l'Islande donc, aussi a été gagnée au réveil. Le Groenland et les îles Féroé ont été touchés aussi par le réveil à cette période-là. Tibi Barat sera actif donc pendant de très nombreuses années. Il aura souvent affaire justement à de telles oppositions aussi. Par exemple, un jour, il aura affaire aux jeunes socialistes qui vont le battre, tout simplement, qui vont le molester physiquement. Puis de là, il passe aussi en Finlande, où le réveil va éclater aussi avec la même impétuosité que dans les autres pays scandinaves. La Hollande va être gagnée aussi. Et puis aussi l'Allemagne, par l'intermédiaire du pasteur Paul, qui était venu voir ce qui se passait à Oslo et qui va emmener le réveil en Allemagne et où il va se développer jusqu'à la Première Guerre mondiale, où hélas, il va y avoir, nous allons voir dans un instant, un arrêt du réveil à cause de la situation politique. Le pasteur Thomas Barat sera actif jusqu'en 1934, donc c'est la dernière convention à laquelle il assistera à Oslo, justement, une convention qui se rassemble dans son église, et il va mourir donc peu après. Après la disparition du pasteur Barat, qui fut vraiment l'apôtre de la Pentecôte européenne, l'homme de Dieu qui va prendre le relais, c'est son ami Lewis Petrus, qui lui est né en 1884, dans un foyer de gens très très modestes, et qui... lui aussi avait des ambitions très très modestes, puisque dès l'âge de 11 ans, il a commencé à travailler comme berger dans le nord de la Suède. C'est à l'âge de 15 ans qu'il se convertit et se fait baptiser. C'était en 1899, bien que à cette période-là, les baptistes en Suède étaient persécutés comme étant des dissidents. L'église officielle de Suède était l'église luthérienne. Et l'État, qui était donc l'Église d'État, persécutée, pas physiquement, bien entendu, vous me comprenez, on n'était pas en Colombie ici, mais enfin quand même, mettait des bâtons dans les roues, des entraves aux baptistes, et un petit peu comme le fait aujourd'hui le gouvernement français par rapport aux sectes, si vous voulez. Donc c'était appartenir au groupement baptiste, c'était un peu comme appartenir à une secte en France aujourd'hui. Ça montre que le jeune Lewis Petrus ne s'est pas laissé arrêter par ces considérations-là, et donc il est devenu baptiste à partir de cette période-là. Immédiatement, il s'est mis à témoigner de sa foi, et peu de temps après, il s'est rendu en Norvège pour travailler, et en même temps, il a fréquenté une église baptiste qui se trouvait à Oslo, et où il a commencé comme prédicateur. Il raconte avec humour comment il était amené à prêcher un jour, n'est-ce pas ? Il avait préparé une prédication, et puis finalement, en quelques minutes, il avait fini sa prédication, il avait dit tout ce qu'il avait à dire. Ça n'a pas duré 5 minutes, sa prédication. Il était très jeune, il avait 18 ans, quelque chose comme ça, à peine, ou même peut-être encore plus, et puis il s'est assis, tout confus. Alors le pasteur est venu, lui a dit, il y a au moins une chose de bonne dans ta prédication. C'est que quand tu n'avais plus rien à dire, tu t'es arrêté. Ça a été ses débuts, de celui qui devait devenir un des plus grands prédicateurs de l'Europe de cette génération. C'est pas... Et c'est alors qu'il a connu le pentecôtisme. Il est rentré sur Stockholm, et là, il a commencé à aller dans une école biblique, dans une école biblique baptiste, bien entendu, qui se trouvait là-bas, pour servir le Seigneur. Et dans cette école biblique, il a été confronté à différents courants théologiques, Et alors, il a commencé à avoir des combats terribles, et notamment des doutes sur l'inspiration de la Bible, sur l'autorité de la Bible. Et notamment, il a été amené à douter de la divinité de Jésus. Au bout de quelques temps passés dans cette école biblique, la seule foi qui lui restait, c'était la foi dans l'existence d'un Dieu plus ou moins lointain. Et il était dans cet état de grande ténèbres spirituelles, lorsque, le jour de Noël 1905, il a eu une vision de Jésus. Jésus lui est apparu, de telle sorte que là, il a retrouvé en un instant, tous ses doutes se sont évanouis, il a retrouvé la foi pleine et entière dans l'inspiration d'Écriture, foi qui, comme il le dira lui-même plus tard dans ses mémoires, ne l'a plus jamais quittée. Cinq ans plus tard, en 1910, il devenait pasteur de l'église baptiste d'Oslo. Et c'est là qu'il va rencontrer Tibi Barat. Au contact de Tibi Barat, il acquiert une nouvelle vision spirituelle. Il va être baptisé dans le Saint-Esprit et il repart donc en Suède, conscient, comme l'était aussi Tibi Barat quand il avait quitté les États-Unis, que le Seigneur l'appelait à répandre ce message dans son pays natal, en Suède. Il sollicite alors un poste de pasteur de la part des autorités baptistes et on lui confie la petite église Philadelphia de Stockholm qui, à cette époque-là, compte 50 membres. Quelques années plus tard, elle en comptera 1000 fois plus, 5000, après que le réveil sera passé par là. Bientôt, le nombre des membres de cette église tombe à 20 quand Lewis Petrus y arrive. Et c'est alors qu'il prêche la Pentecôte. Bon, il vient de se marier aussi à cette période-là. Il a aussi été attaqué dans la santé de sa femme. Sa femme a failli mourir. Elle a été miraculeusement délivrée par la main du Seigneur. Et c'est alors que va éclater un puissant mouvement de réveil dans la ville de Stockholm. Non seulement dans la ville de Stockholm, mais qui se répand dans le pays tout entier, comme c'était le cas en Norvège. Comme en Norvège, comme à Oslo, on vient de tout le pays pour assister à ce qui se passe dans cette église de Stockholm, cette église Philadelphia, où des malades sont guéris, où des gens se mettent à parler en langue, où des prophéties extraordinaires sont données, etc. Bien sûr, ce réveil provoque aussi de l'opposition et Lewis Petrus est attaqué, y compris dans la presse laïque, si j'ose dire. Et c'est pour défendre la cause du réveil qu'en 1915, donc, il crée un journal quotidien, un journal d'information, tout simplement, qui s'appelle Dagen, qui a existé jusqu'à ces derniers temps, qui vient de disparaître, mais qui a été un des grands journaux de Suède, qui était cité dans la presse mondiale d'ailleurs, et qui est resté pentecôtiste jusqu'à sa disparition, donc il y a peu. Dans la même foulée, le réveil ayant pris tant d'ampleur, Lewis Petrus ne peut plus fournir lui-même, il a besoin de collaborateurs, et il va donc former des hommes. Il va créer non pas une école biblique. Toute sa vie, Lewis Petrus sera hostile à l'école biblique en tant que telle, mais une formule très souple, qui consiste à faire, pendant plusieurs semaines, des cours intensifs, donc à plein temps, pour les jeunes candidats au ministère, qui ensuite retournent dans leurs églises pour suivre des stages pratiques, avec de temps en temps aussi des sessions pour des remises à flot, des choses comme ça. Et c'est ainsi qu'au bout de quelques temps, de quelques mois, il va se trouver entouré de collaborateurs de grands talents, de grandes valeurs, qui vont pouvoir le seconder et devenir ceux qui vont encadrer les nouvelles églises qui se créent un peu partout en Suède. Mais l'opposition des baptistes traditionnels est telle que Lewis Petrus est obligé, en 1915, de quitter à son tour les églises de Suède. Ça s'appellera jamais donc Assemblée de Dieu là-bas, mais c'est le mouvement de Pentecôte jusqu'à nos jours, lequel va connaître alors une très très grande expansion. Bien que il soit attaqué dans tout le pays, comme l'avons dit, notamment il va aussi avoir des conflits avec des collaborateurs qui vont être jaloux et dont il va devoir se séparer. Il crée aussi une radio chrétienne. Et Léo Pétrus est un homme qui est un véritable apôtre. Il a un ministère d'apôtre au sens d'Éphésiens 4, c'est-à-dire qu'il est un homme qui crée. Il crée constamment des nouvelles choses. Jusqu'à son âge très avancé, il avait toujours des nouvelles idées, il avait toujours des... Et en même temps, c'est un homme extrêmement sage, extrêmement équilibré, qui n'est pas du tout farfelu. D'ailleurs, il a eu cette parole que s'il est vrai que les fanatiques ont toujours accompagné le réveil, ça c'était pratiquement inévitable, le réveil n'a jamais été fanatique, disait-il. Et le réveil a toujours dû se garder des fanatiques et devra toujours se garder des fanatiques. C'est dire que lui aussi, il a dû combattre très fort contre les fanatiques. Donc, création d'un centre biblique, création d'un journal national, d'une radio chrétienne. Et puis aussi, Léo Pétrus va se lancer dans des œuvres sociales, notamment en faveur des pauvres. Nous avons vu que les pays scandinaves, avant d'être les pays les plus avancés du monde au lendemain des deux guerres mondiales, de la Deuxième Guerre mondiale, ont connu des temps extrêmement difficiles au début du siècle, des crises économiques qui ont frappé. Il y avait une grande misère, une grande pauvreté dans ces pays. Léo Pétrus va créer donc des soupes populaires, des foyers d'accueil pour les enfants en difficulté, etc. Enfin, tout un réseau d'œuvres sociales dans le but de venir en aide aux plus démunis, aux plus défavorisés, et aussi aux alcooliques. Léo Pétrus sera un grand fardeau pour les alcooliques, comme l'avait fait d'ailleurs Tibi Barat aussi dans le pays voisin, dans le pays qui était la Norvège. C'est en 1968, à l'âge de 74 ans, qu'il démissionnera de ses responsabilités de pasteur, premier pasteur de l'église de Philadelphia, qui à cette époque-là donc comprend plusieurs milliers de membres. Il n'est évidemment pas le seul pasteur, mais enfin, il est le pasteur principal. Mais ça ne l'empêchera pas de rester au service de Dieu, actif constamment, n'est-ce pas, travaillant d'arrache-pied, sillonnant le pays et même au-delà, n'est-ce pas, pour y porter la bonne nouvelle. Et il s'éteindra à l'âge de 90 ans. 90 ans sans avoir abandonné sa vigueur. Notons au passage aussi que, comme Anna Larsen, Léo Pétrus a été amené à prendre position contre les pièces de théâtre chrétiennes. Cette tentation des pièces de théâtre chrétiennes existait déjà aussi dans la Pentecôte à cette époque-là. Et finalement, Bible en main, après avoir prié, cherché le Seigneur, Léo Pétrus avait pensait que c'était quelque chose qui était anti-biblique, et donc le mouvement de Pentecôte à cette époque-là rejetait cette situation. Ce qui caractérise justement la Pentecôte scandinave à cette période-là, et européenne pourrait-on dire, puisque déjà nous allons voir que si l'Angleterre avait été touchée, c'était justement une profonde unité spirituelle. Et donc l'Angleterre avait été touchée, d'abord l'Écosse, une petite église qui se trouvait à 20 km de Glasgow avait été touchée par le réveil quand le pasteur Bodhi était venu donc à Oslo les 1er et 2 janvier 1908. Et là, il avait été bouleversé par le message de Barat. Il était rentré donc en Écosse, et là il avait commencé à prêcher le message du réveil après avoir lui-même reçu le baptême dans le Saint-Esprit. De Glasgow, il était passé à Édimbourg, où il était devenu pasteur d'une des églises de la ville, de telle sorte que le mouvement s'était répandu dans toute l'Écosse à cette période-là. En 1908 également, le pasteur Bodhi s'était rendu en Irlande du Nord, puis ensuite à Dublin, en Irlande du Sud, de telle sorte que là aussi, le réveil de Pentecôte avait commencé donc en Irlande. En 1904, quatre années plus tôt, donc, le réveil du pays de Galles avait pris fin. Le pasteur Bodhi avait été un de ceux qui avaient été marqués par le pays de Galles, et il voyait justement dans le message de Barat la continuation de ce qui s'était passé à cette période-là. Au pays de Galles, toujours, donc, là aussi, le réveil est arrivé sur des cendres qui étaient encore chaudes. Et nombre de gens qui avaient vécu le réveil de 1900 à 1904 avaient soif d'autres choses, et ils ont accueilli, évidemment, comme la continuation du réveil, ce qui leur venait justement de Scandinavie. Et c'est ainsi que Joshua Jeffreys, qui était un des enfants du réveil de 1904, puis ensuite ses deux fils, Stephen et George, et il avait aussi un troisième fils appelé Edward, ont été baptisés dans Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, parmi les premiers au moment où le pasteur Body est venu donc dans le pays de Galles. Stephen était mineur et George était mécanicien. Donc autant dire que c'était des gens extrêmement simples. Et alors très vite, la Pentecôte s'est répandue dans l'ensemble du pays de Galles, même si il y a eu ça et là quelques excès. Bon, le pays de Galles avait connu des excès, c'est comme ça que s'était terminé le réveil en 1904. Mais grâce à l'expérience, d'une part, et puis bon, la dimension spirituelle du pasteur Body, ces excès ont pu être corrigés assez rapidement. Le pasteur Body a rassemblé en 1908 une première convention à Sunderland, et là... il y a eu, entre 1908 dans cette ville et 1914, sept conventions nationales, en quelque sorte, qui se sont rassemblées. Ce sont dans ces années-là que le mouvement de Pentecôte britannique s'est structuré, s'est formé. Et notamment les conventions, les sept conventions qui se sont succédées à Sunderland, ont été les conventions, pourrait-on dire, formatives du mouvement de Pentecôte britannique. C'est ainsi, par exemple, qu'on a été amené à constater que le ministère de guérison n'était pas quelque chose de spécifiquement pentecôtiste. Le réveil du Pays de Galles de 1904 connaissait déjà donc le ministère de guérison et des cas de guérison. Et ce sur quoi on a mis l'accent dans les conventions de Sunderland, c'était justement sur la dimension du baptême dans le Saint-Esprit et des dons spirituels. La même année, donc au printemps de 1908, le pasteur Body a publié un journal qui avait pour but de répandre le message de la Pentecôte dans le monde britannique, qui s'appelait Confiance. Ce journal a fini par avoir une diffusion mondiale et il s'est mis à être en quelque sorte l'organe officiel du mouvement de Pentecôte mondial qui faisait la liaison entre les différents mouvements de Pentecôte nationaux, si j'ose dire, qui donnait des nouvelles du réveil, des nouvelles de la progression de l'œuvre de Dieu dans le monde entier. Au Pays de Galles, le réveil de Pentecôte a connu une orientation tout à fait particulière. Dans le fond, c'est un peu normal. C'était le réveil revenait presque à son origine, si tant est que bon, le réveil de Pentecôte n'avait pas tout à fait la même origine. Mais on a vu comment déjà entre le pasteur Seymour de Los Angeles et Vance Roberts du Pays de Galles, il y avait eu des contacts au moins épistolaires et en tout cas une profonde communion d'esprit, l'un et l'autre reconnaissant que ce qui se passait dans leur pays respectif était véritablement une œuvre de Dieu et Evans Roberts approuvant, sans l'avoir lui-même véritablement jamais expérimenté, l'œuvre qui se produisait donc aux États-Unis. Et c'est alors que dans le petit village de Pennygrove, un certain nombre de gens aussi ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit, et notamment la famille Williams. Enfin, Williams, c'est comme Dupont chez nous, n'est-ce pas ? Bon, il y a des Williams au Pays de Galles autant qu'on en veut. Mais c'était des gens qui appartenaient à l'église congrégationaliste de Pennygrove, dont le pasteur se nommait aussi Williams, d'ailleurs. Et c'est ainsi qu'à 10 ans, un jeune garçon, membre de cette famille, se nommait David, qui descendait à la mine, on descendait à la mine très jeune à cette période-là, a été victime d'un de ces accidents terribles qu'il y a évidemment dans ce métier difficile. Et bon, il en est ressorti, mais il avait des grandes difficultés d'élocution, il avait des grands problèmes. Son père avait été très actif dans le réveil, alors que le jeune David avait 3 ans. Et lui-même était très proche d'Evans Roberts, qui lui aussi était d'ailleurs un ancien mineur. Evans Roberts avait été mineur et forgeron. Le jeune David a participé à l'école biblique qui avait été créée à la suite du réveil du Pays de Galles dans la ville de Newcastle, Emily. Et il avait déjà été profondément marqué par une visitation de Dieu en 1904 dans une convention qui avait lieu dans cette ville. Et là, il avait dit, il avait prié « Seigneur, abaisse-moi ». Et alors, il avait connu à ce moment-là un temps de réveil personnel. Là, il avait commencé donc à rendre témoignage dans la petite église dans laquelle il se trouvait, et qui était devenue un des grands centres du réveil, de telle sorte que les théâtres, les salles de jeu, les cafés se vidaient dans toute la région à la suite du réveil qui soufflait. Les églises étaient pleines de nuit comme de jour, et on ne parlait que du réveil partout dans toute la région. Et c'est alors qu'il a, en novembre 1904, donc là, après un temps de désert, c'était la fin du réveil, des réunions ont repris. Le jour de Noël, donc, David et son pasteur ont eu l'occasion de rencontrer Evans Roberts. Et là, donc, à Noël de l'année 1904, il a eu une vision de Jésus sur la croix, un petit peu comme l'avaient été les huit Pétrus. Et ça a été pour lui l'occasion de faire un pas nouveau avec le Seigneur. Il est resté proche d'Evans Roberts jusqu'à sa mort à l'âge de 72 ans, sa mort survenue en 1951. Et là, donc, avec son frère, ils ont commencé à prêcher l'Évangile. D'abord à Pénigros. Au-delà. À Pénigros, il y a eu aussi des oppositions, parce qu'il y avait ceux qui étaient pour le réveil de Pentecôte et ceux qui trouvaient que c'était quelque chose qui n'était pas juste. Tant et si bien que les pentecôtistes ont dû se rassembler dans des locaux publics et ils étaient interdits dans les églises traditionnelles. Si bien que les frères Williams ont été amenés à construire leur propre lieu de culte. À la suite d'une prophétie, le frère de David, Daniel, a démissionné de l'église congrégationaliste à laquelle il appartenait. Et l'année suivante, une prophétie a révélé que Daniel était choisi pour être le berger de l'œuvre qui était ainsi créée. Il est donc devenu responsable de l'église de Pénigros et un troisième frère était devenu aussi rétrograde. On a tenté vainement de le ramener à Dieu. Il y a eu des miracles tout à fait étonnants aussi dans cette période-là, dans toute cette ville de Pénigros. Et alors, c'est là que l'église de Pénigros a été amenée à mettre l'accent sur l'importance de la prophétie. Et le problème est né de savoir quelle était la place de la prophétie dans le réveil. Les frères Williams étaient persuadés que le ministère de prophétie était un ministère spécifique et qu'il était indispensable à l'Église. Un certain nombre d'autres pentecôtistes prétendaient, à la suite d'expériences malheureuses, que la prophétie qui doit être jugée n'était pas quelque chose qui devait être, déterminant dans la conduite des œuvres. Finalement, le problème tournait autour de cette question. Les frères Williams, eux, pensaient que lorsqu'une prophétie était éprouvée et considérée comme véritablement de Dieu, elle devait être déterminante puisque c'était le Seigneur qui parlait. De fil en aiguille, non seulement la question du ministère de prophète a été discutée, mais également les cinq autres ministères, apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs et prophètes. Et c'est ainsi qu'à l'intérieur même de la communauté de Pénigros est née une incompréhension sur cette question des ministères. En 1911, il y a eu donc une scission à l'intérieur de l'œuvre. Et c'est alors que ceux qui pensaient que les cinq ministères d'Éphésiens 4 étaient encore pour l'Église aujourd'hui, se sont rassemblés pour former une communion, pourrait-on dire, une fellowship, on dit en anglais, n'est-ce pas, qui a pris le nom de foi apostolique. C'était les tenants de la foi apostolique. Et dans ce système qui était mis en place, les prophètes étaient reconnus comme tels et désignaient les anciens des églises par prophétie. Il nous semble personnellement que, de fait, les pentecôtistes traditionnels avaient quelques raisons de mettre quelques bémols sur cette structure, non pas sur la doctrine était juste, exacte, c'est vrai, que les cinq ministères sont pour notre temps, ça c'était le mérite des apostoliques d'avoir redécouvert cela. Ils avaient raison aussi d'insister sur l'importance de la prophétie, mais il y a eu une institutionnalisation des cinq ministères avec des problèmes graves qui sont nés à la suite justement de ce genre de choses. La convention, l'année suivante, la convention apostolique qui s'est tenue à Londres a officialisé cette structure-là. Et sont ainsi nées ce qu'on appelle les églises apostoliques, dont la ville de Pénygrose est devenue jusqu'à aujourd'hui le centre quasiment mondial, pourrait-on dire. De là, la foi apostolique s'est répandue à Édimbourg, puis à Glasgow, où existe encore aujourd'hui ce qu'on appelle la grande église du Buisson Ardent. Puis ensuite, elle s'est répandue en Irlande et dans le reste de l'Angleterre. De là, elle est passée aux États-Unis, à Philadelphie, où il y a eu aussi création d'églises, et surtout au Danemark. Et c'est ainsi que Anna Larsen, qui se trouvait en Angleterre à cette période-là, et qui donc s'était mariée entre-temps, a été gagnée donc à la foi apostolique également avec son mari. Le mari est devenu secrétaire d'ailleurs des églises apostoliques du Danemark. Et en 1922, donc, Anna Larsen et son mari ont abandonné leur ministère itinérant et ont créé au Danemark ce qu'ils appelaient des maisons de l'Évangile, c'est-à-dire des endroits où pouvaient venir tous ceux qui étaient dans les besoins. Il y avait à la fois un travail social et un travail spirituel. D'ailleurs, c'est très intéressant. Johnny North, qui, dans les années 60 et 70, était lui-même membre de l'Église apostolique du Danemark, avait un peu repris cette idée des maisons de l'Évangile qui avait été créée donc par Anna Larsen et son mari. De là, le mouvement apostolique est passé en Chine par l'intermédiaire d'une chrétienne chinoise qui avait assisté à une des conventions de Pénygrose. Mais c'est au Danemark, pour ce qui est de l'Europe, que le mouvement apostolique s'est implanté d'une manière la plus profonde. En 1939, a été créé donc à Kolding, au Danemark, un centre qui était le centre des églises apostoliques au Danemark, d'une part, mais aussi donc le collège biblique de l'Europe, pour ce qui est justement des églises apostoliques. En 1935, les frères Williams sont allés prêcher à Oslo, et bon, c'était peut-être pas extraordinaire, finalement, car il y a eu une espèce de rivalité entre les églises apostoliques et puis les autres églises pentecôtistes non apostoliques, notamment justement les églises créées par Tibi Baratz et puis par Lévi Petrus. Et il eut mieux valu, n'est-ce pas, bon, qu'ils se partagent un petit peu le terrain. Bon, finalement, le Danemark est devenu apostolique sur le plan pentecôtiste. Il n'y a pratiquement pas d'autres églises pentecôtistes au Danemark que les églises apostoliques. Il aurait mieux valu s'en tenir là. Bon, même chose pour ce qui est du Pays de Galles. Le Pays de Galles pentecôtiste est essentiellement apostolique. Bon, certaines régions des États-Unis aussi, plutôt que d'avoir justement une espèce de rivalité qui est née à ce moment-là. Bon, il y a eu une trentaine d'églises créées en Angleterre, 25 assemblées créées en Irlande, parfois avec des dissidents d'autres églises. Bon, en 1924, un jeune évangéliste qui était membre des églises d'église apostolique a été envoyé en France pour y prêcher l'évangile. C'était Thomas Roberts. On a déjà reparlé. Les églises apostoliques ont envoyé des évangélistes aussi en 1929 en Italie, en 1931 au Nigeria, où il y a eu d'ailleurs aussi un très gros succès. Le Nigeria et après le Danemark, le pays a le plus d'églises apostoliques, à 1400 églises apostoliques dans le seul pays du Nigeria. En 1930, Landes, et puis les îles du Pacifique également. Bon, en 1924 a été créé un conseil d'apôtres et de prophètes. Bon, c'est-à-dire une structure finalement, une structure qui n'avait pas très bonne presse chez les premiers pentecôtistes. Les premiers pentecôtistes étaient très allergiques à toute forme de structure, notamment de structure pyramidale. Et finalement, il y a eu une institutionnalisation qui fait de l'Église apostolique effectivement une structure très pyramidale. Très pyramidale, dirigée par des gens dont certains sont d'authentiques apôtres et d'authentiques prophètes. Il y en a eu, il y en a encore, n'est-ce pas ? Et d'autres, qui sont peut-être appelés ainsi par les hommes, mais qui le sont peut-être moins que ce qu'on voudrait bien dire. Et c'est un petit peu le grand problème, justement, des églises apostoliques. Donc, l'Église apostolique a une organisation extrêmement centralisée par ce moyen-là, qu'elle veut spirituel, qui l'est parfois, qui ne l'est pas toujours. Et c'est son problème, finalement. Bon, en 1936, a été aussi créée une école biblique à Pénigros. Si bien qu'il y a deux centres aujourd'hui européens, Kolding au Danemark et Pénigros au Pays de Galles. Voilà, si vous voulez, bon, il faudra qu'on parle un petit peu de Martinus Bière, mais je crois que le temps est passé. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?